Vous écoutez
RMC. RMC, 7h-9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 6h57, tout pile. Très bon réveil à tous. Courage, courage pour ce réveil. Nous sommes le jeudi 3 septembre. Soyez les bienvenus dans Apolline Matin. On est ensemble jusqu'à 9h. Il y a l'historien Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour à tous.
Il y a l'économiste Emmanuel Le Chip. Bonjour Emmanuel.
Bonjour tout le monde.
Et il y a déjà Géraldine Demery qui nous prépare une météo très chaude. Elle va nous le dire dans un instant. Bonjour Géraldine.
Bonjour à tous.
Comme chaque matin, on parle de vous et on parle de vos problèmes. Avec ce matin, d'abord l'immobilier, la galère pour louer un appartement dans les grandes villes. Le marché est dans une situation catastrophique. Voilà ce que nous dira le patron des agences Orpi dans 10 minutes. Emmanuel, on va pouvoir la résoudre un jour, cette crise de l'immobilier?
Le problème, c'est qu'il n'y a pas de bien à louer parce que c'est l'enfer d'être propriétaire aujourd'hui et de louer des appartements. C'est devenu trop cher, c'est trop compliqué sur le plan réglementaire. Les droits des propriétaires, ils sont quand même pas super par rapport à ceux des locataires. Qui
donc
a encore envie
bouge,
aujourd'hui d'investir dans l'immobilier?
Donc plus rien n'arrive sur le
dans
marché.
Dans l'immobilier locatif, notamment.
Et j'ai vraiment besoin aussi de vos témoignages. Appelez-nous au 3216. Dites-nous aussi si vous réussissez à trouver où vous logez ou louez, si vous êtes locataire, ou bien si vous êtes propriétaire, racontez-nous aussi comment ça se passe. Pour payer son loyer, il faut aussi travailler parfois le soir, la nuit ou le week-end, et ça a des conséquences sur notre santé et notre vie sociale. C'est ce que déplore l'ANSES dans une étude. Son directeur scientifique viendra nous la dévoiler à 7h40. Ces horaires décalés et les conséquences qu'elles ont sur nous, bon, on n'a pas toujours le choix.
C'est-à-dire que voilà, le nombre d'actifs qui cumulent des jobs a doublé en 10 ans. Ça concerne évidemment une écrasante majorité de jeunes. Donc être en bonne santé, gagner de l'argent, dans ce pays, il va falloir choisir.
Et vous, vous travaillez peut-être en horaire décalé ou alors vous cumulez plusieurs jobs. Appelez-nous pour témoigner. Je vous attends bien sûr au 3216, vos messages sur le WhatsApp 0612 424 424. On parle agriculture aussi ce matin. Le patron de la FNSEA, le principal syndicat agricole, sera mon invité à 8h30. L'agriculture française est menacé, dit-il. Il estime même que le pronostic vital de l'agriculture française est engagé. Il sera donc là à 8h30. RMC continue à vous gâter pour cette rentrée. La prime de rentrée, elle est toujours à gagner. 37 500 euros au compteur. 37 500 euros au compteur. Restez bien attentifs parce qu'hier, il y a une auditrice qui a été appelée. Elle n'a pas répondu. Elle est passée à côté de cette magnifique somme. Il faut rester à l'écoute de l'antenne et à l'écoute de votre téléphone. Très bon réveil à tous. Excellente journée à l'écoute d'RMC. Il est 7h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Les fortes chaleurs jouent les prolongations dans le sud. Déjà des records battus hier pour un mois de septembre. D'autres pourraient tomber d'ici à la fin de la semaine. On pourrait passer la barre des 40 degrés. Des températures qui mettent les nerfs des agriculteurs à rude épreuve face aux canicules à répétition et la sécheresse. Ils attendent le plan d'urgence du gouvernement retardé de quelques jours. Et puis le président de l'OM qui tacle l'ancienne direction qui a trop dépensé, obligeant le club à une cure d'austérité.
Encore et toujours la chaleur.
On attend des températures inédites pour la saison dans le sud, comme un jour sans fin. Énième coup de chaud depuis le mois de mai jusqu'à 37 degrés. Attendu aujourd'hui du côté de Perpignan, compliqué à vivre pour des habitants épuisés.
Je le vis parce qu'on est obligé de le vivre comme ça, mais j'avais jamais connu ça. Jamais. Parce qu'en plus, nous on avait la qualité d'avoir la tramontane ici. Il n'y en a pas. Même la tramontane s'est arrêtée.
C'est juste, même tous les Perpignanais en ont marre, la chaleur.
On va rester à la maison avec la clim, je pense.
C'est une angoisse, oui. Pour nous, les étudiants, dans la classe non ventilée, non climatisée. Ça fait plaisir quand on est en vacances ou au bord de la plage, mais quand on reprend les cours ou quand on, pour certains, le travail, c'est assez compliqué à gérer.
Un épisode remarquable qui doit durer jusqu'à dimanche avec des pointes à 40 degrés attendues dans le sud-ouest. Géraldine Demery, est-ce que ce serait inédit pour un mois de septembre?
Alors les 40 degrés aujourd'hui en septembre en France, c'est pas inédit mais c'est complètement exceptionnel puisque ces 40 degrés n'ont été atteints que deux fois en France au mois de septembre. En 1975 à Ajaccio et en 2022 à Pissos dans les Landes. Pissos d'ailleurs qui détient ce record national pour septembre avec 40 degrés 2. Record qui pourrait tomber entre entre vendredi et dimanche. Et ce qui est sûr, c'est que de toute façon, de nombreux records mensuels seront battus localement. Je pense par exemple à Toulouse, à Bordeaux ou encore à Nîmes. Vous le disiez hier, les premiers records sont tombés. Il a fait 36,8 degrés à Lévance, en Ardèche, plus de 36 degrés à Pézenas dans l'Hérault, 35,2 à Béziers. Et ce n'est que le début. On a déjà 6 départements qui sont en vigilance jaune pour la canicule, des Pyrénées-Orientales à la Drôme. Certains départements pourraient passer en vigilance orange dès demain après-midi. Ce serait seulement la deuxième fois qu'une vigilance orange canicule est déclenchée en septembre. Et ça ferait monter à 6 le nombre de canicules cette année en seulement 3 mois.
Un nouveau coup de chaud. Les agriculteurs s'en seraient bien passés, secteur éprouvé par les canicules à répétition, la sécheresse aussi. Certaines exploitations sont au bord du gouffre, étranglées par des charges qui pèsent sur la trésorerie. On vient de l'entendre sur RMC, le porte-parole de la Confédération Paysanne. Stéphane Gallet réclame la mise en place d'un quoi qu'il en coûte pour l'agriculture. C'est la priorité de Sébastien Lecornu. Le gouvernement a prévu un gros chèque pour venir en aide au secteur. Un plan d'urgence devait être présenté aujourd'hui. Sébastien Krebs, il faudra encore un peu patienter.
Au gouvernement, on promet que c'est une question de jours. Le plan est prêt, assure un conseiller. C'est le Premier ministre qui a souhaité le repousser, jugeant qu'il peut encore être amélioré. Le temps donc de quelques derniers arbitrages avec Bercy. Car la somme débloquée sera conséquente au-delà du milliard d'euros, selon une source ministérielle. Des aides pour indemniser les pertes, relancer la production, réduire la taxe foncière. Quoi qu'il en coûte pour le déficit, c'est un choix qu'il faut assumer, explique-t-on au gouvernement. C'est dire l'ampleur de l'inquiétude. Le Premier ministre, sous pression, regarde tout cela de très près. Le pronostic vital de l'agriculture est engagé, prévient la FNSEA. Le gouvernement sait qu'il ne peut pas se rater et qu'en pleine campagne présidentielle, une nouvelle crise agricole avec des tracteurs sur les routes pourrait prendre très vite beaucoup d'ampleur.
Et la proposition politique concrète du jour, ce sera Cécile Duflot tout à l'heure. Et justement, elle plaide pour un prix minimum d'achat pour les agriculteurs. Ça veut dire aussi s'engager, nous, à les acheter plus cher, ces produits agricoles, et aussi à la grande distribution. Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA, sera mon invité dans le face-à-face.
Une proposition continue d'agiter la campagne présidentielle, celle du RN qui veut sanctionner d'une amende le port du voile. Jean-Luc Mélenchon s'est exprimé sur le sujet. Le candidat insoumis fait son mea culpa, lui qui avait à l'époque évoqué un chiffon sur la tête ou encore un signe de soumission patriarcale, dit avoir changé d'avis et qualifie ses propos passés de terribles erreurs.
Rentrée agitée à Nantes.
Et plus particulièrement au sein du collège La Durantière, où les professeurs continuent de réclamer le classement de l'établissement en zone REP+, une demande vieille de plusieurs années. Et l'agression sexuelle d'une enseignante en juin dernier par un élève de 12 ans ne fait que renforcer leur colère face à un ministère de l'éducation mutique. Martin Lange.
Alors que cette professeure se trouvait seule dans une salle de classe avec un élève de 12 ans, ce dernier s'approche, lui touche les seins puis le cou avant de lui plaquer la tête contre le bureau. Sylvain Marange est professeur d'histoire-géographie et secrétaire départemental du syndicat SNES-FSU.
Un élève qui manifestement avait prémédité son coup puisqu'il est remonté après la période de cours. Cette agression-là était d'une brutalité extrême, la collègue s'est vue mourir.
Soutenue par la direction de l'établissement et le rectorat, la professeure porte plainte. L'élève lui a été exclu. Le personnel qui depuis 6 ans réclame sans effet le classement de l'établissement en REP+, se sent délaissé. Amélie De Schepper, professeure d'histoire-géographie.
Il suffit d'une signature et d'un arrêté et que ça n'est pas fait. Donc c'est pas tant un sentiment d'abandon que là, un vrai ras-le-bol. Ça n'aurait absolument pas mécaniquement évité l'incident, mais ça nous aurait donné plus de moyens pour faire davantage de prévention.
Les professeurs ont donc fixé un ultimatum. S'ils ne sont pas entendus, mardi prochain, ils se mettront en grève. Du côté du rectorat, on dit soutenir ce passage en REP+, tout en affirmant qu'aucune révision de la carte de l'éducation prioritaire ne sera mise en œuvre avant l'élection présidentielle de 2027.
Deux hommes interpellés en Allemagne, suspectés d'avoir amené début août un drone chargé d'explosifs à l'aéroport de Leipzig. Identifiés par leurs ADN, il s'agit de deux suspects au passeport russe, tentative d'attentat imputée par l'Allemagne à la Russie. Suite de la visite d'Emmanuel Macron à Londres, après avoir admiré la tapisserie de Bayeux prêtée au British Museum en présence du roi Charles III, le chef de l'État va retrouver le Premier ministre britannique Andy Burnham ce jeudi au programme des discussions, l'immigration, l'Union européenne ou encore la guerre en Ukraine. Et puis il faudra deux saisons pour revenir à l'équilibre. Les mots de Stéphane Richard, pas de quoi rassurer les supporters de l'Olympique de Marseille. Il était l'invité de Rotten sans flamme hier sur RMC. Le président de l'OM est revenu sur les dossiers chauds, Florent Germain, et dresse le bilan d'un été agité sur la Canebière.
Oui, après ce mercato inédit côté marseillais, aucune recrue et 11 départs, Stéphane Richard fait le bilan financier de l'OM. Et sans nommer Pablo Longoria, le président olympien charge un peu son prédécesseur.
Il y a un pari qui a été fait par des gens qui étaient un peu joueurs, peut-être, qui a consisté à se dire, on va recruter, on va avoir une équipe de cadors, on va les payer très cher, on va aller en Champions League.
Stéphane Richard se félicite surtout d'avoir conservé le Brésilien Igor Paixão. Son départ aurait fortement agacé l'entraîneur Bruno Genesio.
C'est vrai que dans nos échanges quasi quotidiens, pendant tout ce mercato, je pense que le fait qu'on ait pu gérer ça ensemble, ça s'est tourné beaucoup autour du cas d'Igor Paixão. C'est vrai, parce que c'est un joueur capital. Il n'a pas menacé de démissionner, parce qu'il a ce côté responsable quand même. Hein. Mais je pense qu'on n'était pas loin du point de rupture. J'ai jeté toutes mes forces dans la bataille, effectivement, pour que on garde Igor.
Le président de l'OM promet enfin que l'actionnaire Frank McCourt demeure un patron solide. Il en a juste marre de brûler 100 à 200 millions d'euros par an, a reconnu sur notre antenne Stéphane Richard.
À retenir enfin que Diane Parry a été éliminée cette nuit au deuxième tour de l'US Open. Ça passe en revanche chez les hommes pour Bonzi et Rinderknecht.
C'était le journal de Thibaut Texer. Il est 7h08 sur RMC. Des visites où l'on est parfois jusqu'à 100 à faire à la queue, des prix délirants ou des exigences impossibles à remplir quand louer un appartement devient un véritable parcours du combattant. Bonjour Guillaume Martineau. Merci d'être dans ce studio ce matin avec nous. Vous êtes le patron des agences Orpi. Le marché locatif est apocalyptique, c'est ça votre mot ?
Oui, c'est ce que j'ai dit, bonjour.
Bonjour, apocalyptique, dites-vous. Vous êtes locataire, vous êtes propriétaire. Appelez-nous pour nous dire ce qui coince. Venez nous raconter comment ça se passe au 3216 ou sur le WhatsApp d'RMC 0612 424 424. Vous avez entendu tout à l'heure Emmanuel Lechypre qui disait le problème c'est aussi que c'est de plus en plus décourageant, y compris pour les propriétaires. Eh bien, il y a Romain qui nous appelle de l'Hérault et qui clairement n'est pas d'accord avec Emmanuel Lechypre. Il va lui dire dans un instant, il est 7h09.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h12, 7h12 sur RMC et sur RMC Story. Louer un appartement en ville, c'est de plus en plus difficile. Dans les grandes agglomérations, il y a 30% de biens en moins qu'il y a 6 ans. Bonjour Guillaume Martineau.
Bonjour.
Vous dirigez les agences immobilières Orpi. Le marché locatif est catastrophique, c'est l'apocalypse.
Oui, c'est, on peut l'expliquer. On paye les conséquences de 10 ans de politique du logement qui est erratique. On a eu 9 ministres du logement en 10 ans. C'est la valse à mille temps. Enfin, on n'arrive plus à suivre. Donc, on paye. Là, on est en train de payer ce qui s'est passé depuis des années. Il n'y a plus de Pinel. On n'aide plus les investisseurs. On a pour un moins de 800 euros, enfin, un appartement où vous avez plus de 300 demandes. Donc, alors, apocalypse.
Attendez, vous avez plus de 300 demandes pour, oui, des petits appartements, pour des studios?
Oui, pour des studios, pour loger des étudiants, pour loger qui que ce soit. Donc, le problème, c'est que vous faites un heureux et plein de malheureux. En plus, on demande aujourd'hui des dossiers de plus en plus complets. Donc, on vous demande à vous de nous fournir de plus en plus de pièces et au final, vous êtes mécontents. Donc, on nous reproche.
Et vous, vous êtes un peu entre le marteau et l'enclume, quoi.
Ben oui, en fait, nous, on est juste l'intermédiaire. En fait, ceux qui, on passe par les assurances qui valident des dossiers. Donc, mais au final, en frontal, on dit que l'agence ne loue pas ou il n'y a rien. Mais la réalité, c'est qu'on n'aide pas les propriétaires à mettre en location.
On n'aide pas les propriétaires à mettre en location, c'est ce que vous disiez, Manu.
Oui, parce que vous disiez, on a eu 9 ministres, c'est erratique, etc. Mais enfin, il y a quand même une constante, c'est que chaque fois, c'est de plus en plus contre, finalement, l'intérêt, j'ai envie de dire, du propriétaire. Mais qui peut se lancer aujourd'hui dans l'investissement locatif, sachant que quand même, sur l'autre aspect qu'on peut pas passer sous silence, vous devenez complètement dingue dans les agences au niveau des garanties, etc.
C'est intenable.
C'est presque l'impression que vous me le reprochez, mais en fait, oui, c'est pas qu'on devient dingue, c'est qu'on essaye de suivre la loi, mais 9 ministres en 9 ans. Je ne sais pas si vous mesurez, j'ai calculé, ça fait 253 jours à poste.
Oui, mais tout pour aller vers plus de complexité,
plus de garanties.
Mais on essaye aussi d'aider les locataires à être plus sereins, mais le problème, c'est que la bascule est faite très en faveur des locataires, moins en faveur des propriétaires.
Ça joue
c'est comme un match de tennis, il faut 2 joueurs, et pour avoir un propriétaire, il faut l'aider.
Romain n'est pas du tout d'accord avec vous, Manu. Bonjour Romain.
Oui, bonjour Apolline.
Romain, vous nous appelez de l'Hérault, vous êtes responsable dans l'informatique locataire alors ?
Oui, tout à fait.
Le problème, c'est on ne peut pas dire que c'est de plus en plus difficile d'être propriétaire, il faut surtout dire que c'est de plus en plus difficile d'être locataire.
Allez, on va dire que c'est 70-30, 30 pour le propriétaire, 70% de difficultés pour le locataire. Je vous explique pourquoi, effectivement, comme votre interlocuteur disait, il y a énormément de demandes sur chaque location. Ça, c'est une chose, effectivement. Mais effectivement, aussi, il faut se mettre, je défends un peu les propriétaires, il faut se mettre à leur place. Les prix sont tellement exorbitants qu'ils sont obligés de mettre maintenant des loyers exorbitants et qui sont...
Les prix d'immobilier, vous voulez dire, les prix pour acheter, ne serait-ce que le bien.
Oui. Oui, et acheter un bien pour après pouvoir s'y retrouver, il faut mettre à des prix de loyer qui sont très hauts. Au-delà de ça, nous, en tant que locataires, après, par la suite, on se doit de payer tous les mois notre loyer, on se doit d'être correct, on se doit de respecter le bien. Mais de l'autre côté, il faudrait aussi que le propriétaire respecte son bien. Ça veut dire qu'une maison, ça a besoin d'entretien chaque année. Il faut faire quelques petits travaux, sinon la maison, elle peut tomber facilement en ruine. À titre d'exemple, personnellement, moi, mon propriétaire n'a pas voulu que j'installe la clim cet été. Je l'ai payé moi-même, la clim.
Voilà. Ouais, c'est ça. Vous avez payé vous-même la clim alors que vous êtes locataire.
Mais bonjour Romain.
Le jour où je partirai avec ma clim sous le bras.
Mais vous avez bien raison Romain. Il y a une chose qui est claire. Le propriétaire, il a un toit sur la tête, le locataire n'en a pas. Donc c'est pas la même situation. Il y a quand même quelqu'un qui a un besoin, l'autre qui ne l'a pas. Je sais bien qu'on est sur un marché, mais enfin c'est la première chose. La deuxième, c'est que sur les petites surfaces, parce que c'est de ça dont on parle en fin de compte, c'est les pires de toutes, les petites surfaces, mais c'est une honte. Il est en train de se produire en France une pénurie de logements qui confine à la famine. C'est une famine du logement. À un moment donné, cette société va mourir de son manque de biens et du prix exorbitant que ça coûte pour se loger, exactement comme l'ancien régime est mort de sa fiscalité et de la pénurie de nourriture. J'insiste, c'est pareil, en termes de pourcentage dans un budget, c'est la même chose. Socialement, ça va craquer.
Les conséquences sociales, et c'est vraiment votre, on le sent, c'est votre marotte.
Bien sûr.
Mais vous avez raison, ça fait plusieurs jours que vous alertez là-dessus, sur les conséquences démocratiques,
folie presque, collective.
De ce sentiment d'injustice qui n'est pas qu'un sentiment.
Mais vous avez aussi des conséquences démographiques, puisque notre président dit, il faut faire plus d'enfants, mais pour faire des enfants, il faut avoir un toit pour se loger.
Bien sûr.
Et je reprends ce que vous étiez en train de dire, avec un peu de mesure. Les propriétaires ont un toit, bien sûr. Et je suis pas là pour défendre l'un ou l'autre. C'est juste qu'il faut aider des propriétaires à mettre sur le marché locatif, donc une stabilité, une fiscalité qui soit lisible et non pas à la cape comme on vit depuis des années. Le Pinel retiré, ce sont 60 000 logements, grosso modo, retirés chaque année. On construit pas assez. Il y a des normes de plus en plus importantes.
Alors, il y a eu un certain nombre d'assouplissements. Le DPE, ça devrait remettre un petit peu de logements sur le marché.
Oui, mais on va remettre 300 000 logements en 2027 sur le marché. Mais pensez à ces propriétaires à qui on a dit il faut vendre il y a un an et demi parce que votre DPE n'est pas bon.
Vous avez raison.
Ils l'ont vendu. Et là, on leur dit finalement,
vous auriez pu le garder, le louer. Qu'est-ce qui fluidifierait là, si vous aviez une mesure, si vous étiez ministre du logement?
Stabilité fiscale, un plan sur le logement qui dépasserait mon propre ministère. Ma propre durée en tant que ministre, je ne suis pas ministre, mais ça serait vraiment de penser sur le long terme pour les Français, quels qu'ils soient, parce que quelle que soit votre couleur politique, et on va avoir une campagne présidentielle, ça va être la foire aux promesses, quelle que soit votre couleur, vous devez vous loger. Donc de la stabilité.
De la stabilité parce que les propriétaires sont de plus en plus frileux sur, effectivement vous l'avez dit à l'instant, les évolutions du DPE, les évolutions de MaPrimeRénov', les évolutions de la concurrence sur Airbnb et de la question de où est-ce que c'est interdit, où est-ce que c'est autorisé. En fait, on n'y comprend plus rien.
On n'y comprend plus rien, c'est ordre contre ordre. Et puis surtout, vous avez des villes où on peut faire des choses, d'autres villes où on ne peut pas faire des choses. Donc il faudrait une uniformité de ce qui est possible, permettre aussi sortir les maires de leur rôle d'avoir à tout décider, parce que les maires bâtisseurs se font virer lors des élections. Donc, en fait, c'est schizophrène. Les gens veulent des logements, mais après, on dit moins de construction, plus d'écologie.
Le problème, c'est que là, on parle des locataires, mais du point de vue de l'achat, les taux d'intérêt remontent à nouveau, donc ça ne va pas être non plus la solution.
Il faut se rappeler que le début des ennuis commence finalement après le Covid. Pourquoi ? Parce que avant le Covid, je rappelle que vous empruntiez à des taux entre 1 et 2%. Après, vous êtes remonté sur des taux d'intérêt autour de 4-5%.
Oui.
Et là, évidemment, quand vous voulez devenir propriétaire, toujours avec la perspective de louer, du coup, ça devient extrêmement
De plus en plus.
Extrêmement compliqué, sachant que le prix du mètre carré, lui, a aussi continué à augmenter.
Non, mais en fait, c'est très simple. Il faut que l'État reprenne la main là-dessus, exactement comme ça s'est passé pendant les Trente Glorieuses. Il faut un plan de construction. Et ça, c'est à l'État de le faire. C'est un problème.
On a su faire les cités jardins.
Absolument.
On a su faire les ZUP dans les années 60.
Mais on a su faire plein de choses, mais ça fait surtout 10 ans qu'on fait pas grand chose pour le logement. Donc quand vous parlez de l'État,
c'est un problème social, le logement. C'est pas un problème économique.
Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Guillaume Martineau, vous alertez donc ce matin. Vous êtes à la tête des agences immobilières Orpi. Merci à Guillaume aussi et à Romain. Pour son témoignage, Romain, qui nous appelait de l'héros, vous l'avez compris désormais dans Apolline Matin, l'économie, Emmanuel Le Chypre, l'histoire avec Arthur Chevalier. Et c'est une très grande fierté et un très grand bonheur de vous accompagner avec ces deux-là qui apportent vraiment la vision sur ce que sont les Français, ce qu'est la France. On est à vos côtés tous les matins dans Apolline Matin. Allez, il est 7h19, c'est l'heure de remonter le temps justement avec Arthur. Arthur, l'Allemagne et la Russie sont proches de la guerre. Voilà ce qu'a dit un élu allemand après une attaque de Moscou hier.
Et oui, Berlin accuse Moscou d'avoir envoyé un drone chargé d'explosifs sur l'aéroport de la ville de Leipzig. Et attention, parce qu'entre ces deux pays, ça se termine souvent très mal. Nous sommes au bord de la guerre.
Vous nous le dites dans un instant. Arnaud Demanche arrive aussi pour pirater le face-à-face. Ne bougez pas, il est 7h20 et on se retrouve dans 60 secondes.
RMC, Apolline Matin.
7h21 et on remonte le temps comme chaque matin avec Arthur Chevalier. Arthur, la situation est extrêmement tendue entre l'Allemagne et la Russie. L'ancien président russe Dmitri Medvedev assure que l'Allemagne mérite une frappe.
Eh oui, Berlin accuse Moscou d'avoir envoyé un drone chargé d'explosifs sur l'aéroport de la ville de Leipzig. C'était au début du mois d'août. Hier, le maire de Leipzig a déclaré, je cite, que l'Allemagne et la Russie étaient dans une situation proche de la guerre. Pour le Kremlin, il n'y a aucune preuve de l'implication de la Russie dans cette attaque de drone. Des preuves, Apolline, évidemment, il y en a et beaucoup. La Russie souffle sur les braises et l'OTAN est en état d'alerte maximale.
C'est d'autant plus dangereux que l'Allemagne et la Russie ont une histoire compliquée.
Oui, alors attention, parce que pour la Russie, l'Allemagne, c'est pas la France. C'est un sujet très conflictuel. L'Allemagne, tout a commencé, bien sûr, pendant la Seconde Guerre mondiale. Quand les nazis ont envahi la Russie, 21 millions de Russes ont trouvé la mort dans cette invasion. C'est le coût humain le plus élevé de la Seconde Guerre mondiale. Et après la guerre, ça continue. En 1949, l'Allemagne de l'Est devient un État communiste, la RDA, la République démocratique allemande, avec comme capitale Berlin-Est.
Est-ce que l'Allemagne de l'Est était donc proche de la Russie ?
Très. Déjà, la RDA a été fondée par un homme qui s'appelait Walter Ulbricht. Il était allemand, communiste, mais il avait passé une partie de sa vie en exil à Moscou, où il avait été complètement endoctriné par le régime dirigé par Staline. À partir du début des années 50, l'Allemagne de l'Est devient un allié de la Russie soviétique, un pion sur l'échiquier de son empire, avec des soldats et des services secrets russes absolument partout sur le territoire allemand.
Et parmi ces agents secrets, il y avait un certain Vladimir Poutine.
Mais oui, en 1985, le commandant Poutine arrive en Allemagne de l'Est au service du KGB. Il a 34 ans à l'époque. Il est affecté dans la ville de Dresde. Il va y passer 5 ans où il va surtout assister au déclin de l'URSS et à la chute du mur de Berlin. Pour Poutine, la Russie aurait dû réprimer la rébellion qui a mené à la chute du mur de Berlin. Au lieu de ça, Moscou n'a rien fait et 2 ans plus tard, l'URSS a disparu.
Et la disparition de l'URSS, c'est un traumatisme personnel pour Vladimir Poutine.
Mais oui, et d'ailleurs, il ne s'en cache pas du tout. En 2005, il a qualifié la disparition de l'URSS, je cite, de plus grande catastrophe géopolitique du 21e siècle. Il a aussi dit qu'il éprouvait une très grande nostalgie pour l'Allemagne de l'Est. D'ailleurs, Poutine il parle allemand totalement parfaitement. Donc c'est un sujet sensible qui symbolise pour lui l'Empire soviétique qu'il essaye de reconstituer depuis l'invasion de l'Ukraine. Ces attaques contre l'Allemagne doivent être prises au sérieux. Poutine essaye de rejouer le passé, Apolline.
Merci Arthur pour cette histoire. Chaque matin, et vos chroniques sont à retrouver à tout moment en podcast sur l'application RMC. 7h23, Arnaud Demanche.
RMC.
Demanche pirate, le face-à-face.
Et tout à fait.
Et à 8h30 tout à l'heure, mon invité dans le face-à-face, ce sera un autre Arnaud. Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA.
Et oui, Arnaud Rousseau, le fils du douanier, le frère de Sandrine, le petit-fils de Jean-Jacques, l'oncle de là. Me disait Arthur Chevalier, notre historien qui s'y connaît en grande famille.
L'oncle de là, j'adore.
L'oncle de là.
Je comprends la contrariété.
Oui,
j'ai
mis
Arnaud Rousseau qui est agriculteur, mais alors pas comme nous on l'entend, quoi. C'est l'agriculture à un niveau tac, vous voyez, patron du CAC 40. Quand il dit à sa femme, chérie, je te laisse, je dois aller voir un truc à l'autre bout du champ de betteraves. Ok, à samedi. Tu prends l'hélico? Parce que c'est grand chez lui, c'est grand. L'été a été catastrophique pour l'agriculture française, donc il réclame un plan de plusieurs milliards pour aider les agriculteurs. Il est allé voir la ministre de l'Agriculture, la très gentille Annie Genevard, on l'a déjà eue Annie Genevard,
oui.
Qui lui a dit « Je compatis à la douleur des agriculteurs ». Mais bon, l'été prochain, je suis plus ministre. Dommage. Alors j'ai regardé les principales propositions des candidats à la présidentielle sur l'agriculture. Accrochez-vous. Édouard Philippe, par exemple, propose de ne plus surajouter des normes françaises aux normes européennes. Vous savez, il a vendu son truc. Bah, non mais c'est très bon les pesticides. Regardez. Moyen, c'est pas dangereux. Merde, mes sourcils. Merde, ma barbe, mes cheveux. Jean-Luc Mélenchon veut créer 300 000 emplois agricoles. J'imagine pour rééduquer les prisonniers politiques et les employés de CNews, il va les envoyer dans les champs pour ramasser les betteraves à la main. Dominique de Villepin s'est également investi sur l'agriculteur, sur l'agriculture. Il y a un paysan qui l'a chopé dans son champ mardi soir. Oh monsieur de Villepin, qu'est-ce que vous faites dans mon champ? Qu'est-ce que c'est que cette tenue?
Ma petite culotte de chou pour me faire botter le derrière par les petits lapins.
Foutez le camp. D'accord. Je remets juste ma jupe de rhubarbe.
Et enfin, je me trouve que Arthur, Glucksmann... il rit toujours à décaler. C'est-à-dire que c'est exceptionnel.
Oui, mais ça fait un fond
sonore. Ça monte dans le cerveau.
Raphaël Glucksmann aussi a été interrogé sur les problèmes des agriculteurs et il a immédiatement répondu c'est quoi un agriculteur? C'est le monsieur qui élève des vaches, par exemple.
Ah, et c'est quoi une vache? C'est ce qui donne du lait. Non, ce qui donne du lait, c'est le soja. En vrai, Raphaël Glucksmann, il a un truc. Il veut constituer des stocks alimentaires stratégiques.
Ah.
Stocker de la bouffe en cas de pénurie, vous imaginez. Un jour, on manque de nourriture. Ouais. On ouvre les stocks stratégiques de Glucksmann. Et là, t'as 30 000 tonnes de tofu, 12 bassines de kombucha, 80 cuves de lait d'amande, 50 000 tonnes de pâté végétal. Manu Le Chypre, il nous fait une dépression.
Oh non,
oh non.
Plutôt crever. Revenez les Russes, on se rend aux Russes. Allez, rendez-vous avec Arnaud Rousseau à 8h30.
Ça, ce sera à 8h30 pour l'heure. Il est 7h26 et c'est l'heure de vous faire gagner la prime de rentrée. Imaginez-vous, hier, dans le Moscato Show, on a appelé Christelle. Christelle, elle s'était inscrite. Et elle n'a pas décroché. Elle n'a donc pas gagné la somme de 37 500 euros. Voilà. C'est 37 500 euros. Ils sont donc à nouveau en jeu et on va même les faire grimper puisque je vais tourner la roue. Attention, mesdames, messieurs. Nous sommes sur un 1000.
Joli.
Pas mal.
Ah, j'ai cru que ça repartait derrière. Mon Dieu, j'ai eu peur. Allez, on est sur du 1000 euros. C'est donc 38 500 euros. C'est mon moment, la roue de la fortune. Oui, j'adore. 38 500 euros, donc, que l'on met au compteur. Retenez bien cette somme et inscrivez-vous. Vous envoyez prime au 732-16. Prime au 732-16. Vous avez 10 minutes pour vous inscrire. Il est 7h27 pour gagner ces 38 500 euros. Restez bien à l'écoute. On va vous appeler, mais inscrivez-vous. Prime au 732-16 pour gagner les 38 000 euros. Bonne chance à tous.
75 centimes par SMS, 4 SMS maxi.
7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Victor Pourchet. Bonjour Victor.
Bonjour Apolline et bonjour à tous. Le gouvernement fait faux bond aux agriculteurs. Il reporte l'annonce des aides après la sécheresse et les canicules. L'agriculture est pourtant en danger de mort, répondent les syndicats. Racisme et agression en marge d'un match de Ligue 1. Après une élue, c'est un jeune de 17 ans tabassé et insulté samedi à Lyon qui porte plainte. Et puis bientôt des voitures qui se conduisent toutes seules sur nos routes. Le ministre des Transports offre une expérimentation à Tesla après une visio avec Elon Musk.
L'agriculture française en danger de mort et l'exécutif qui pourtant prend son temps.
Quelques jours de plus avant d'annoncer un grand plan d'aide. Il était initialement prévu aujourd'hui après des semaines de préparation et des mois de canicule. Un retard surprise que les agriculteurs ne peuvent pas se permettre, Célestin Bougère.
Pour Éric Thirouin, ce report a du mal à passer.
Mais en fait, c'est maintenant dont on a besoin des réponses.
Il est président de l'Association Générale des Producteurs de Blé. Pour sa filière, chaque jour est maintenant compté.
On va commencer à semer les céréales 20-25 septembre. Donc en fait, on a besoin de décisions maintenant parce que la plupart des agriculteurs s'interrogent de savoir s'il faut semer. À quoi ça sert de repartir si c'est pour à nouveau perdre de l'argent? Il y a le feu dans nos trésoreries. Si c'est deux jours, si c'est trois jours, ok. Mais si c'est pour nous reporter de mois en mois, ben en fait, on va cesser de produire dans beaucoup d'exploitations. Agricole. On abandonne, on jette l'éponge et on va aller faire autre chose à côté.
Même urgence pour l'élevage. C'est le moment d'acheter le fourrage pour nourrir les ruminants. Mais pour cela, les agriculteurs ont besoin de connaître le montant des aides de l'État au plus tard dans les prochains jours. 50% des stocks sont encore à faire, d'après Patrick Benesi, président de la Fédération Nationale Bovine.
Soit les éleveurs auront les moyens d'acheter, ils garderont le bétail, soit il n'y aura pas les moyens d'acheter et on vivra une autre décapitalisation. Une vache, lorsque vous la mettez à l'abattoir, après elle ne fait plus de lait, elle ne fait plus de veau, il n'y a plus de viande. C'est pour ça que les réponses sont urgentes.
Pour leurs exploitations, les filières bovines et céréalières ont toutes les deux chiffré leurs besoins à plusieurs milliards d'euros.
Et notez bien le rendez-vous, 8h30 sur RMC. On y reviendra sur ces plans d'aide, ce plan d'aide reporté avec Arnaud Rousseau. Il sera l'invité d'Apolline de Malherbe, c'est le président de la FNSEA. Il est 7h33 sur RMC. François Hollande publie un livre sur, je cite, la nouvelle gauche qui ressemble à la droite quand on lit les propositions de l'ancien président, pas encore déclaré pour l'élection à venir en 2027. Mais ces 300 pages ont tout d'un programme politique qui s'éloigne franchement du socialiste qu'il est toujours. Cyprien Pézeril.
Oui, par exemple, François Hollande dit non à une hausse massive du SMIC. Proposition phare à gauche, cela compromettrait l'équilibre des entreprises, écrit l'ancien président qui propose à la place une baisse des cotisations sociales pour augmenter le salaire net, le tout financé par une hausse de la TVA. Voilà une des près de 90 propositions de ce livre, parfois loin des discours habituels de son camp. Pêle-mêle, construire plus de prisons, limiter les arrêts maladie ou encore restreindre le regroupement familial en posant, je cite, des conditions de bon sens comme avoir un hébergement avant de venir en France.
France que François Hollande n'imagine pas attirer les électeurs de gauche avec ça, attaque un responsable de son camp. Alors pourquoi ce repositionnement de l'ancien président? Il anticipe une recomposition politique au centre, croit savoir l'un de ses vieux compagnons de route.
Cyprien Pézeril du service politique de RMC. On apprend ce matin ce drame en Haute-Saône. Quatre corps d'une même famille, dont deux enfants de 6 et 9 ans, ont été découverts dans la commune de J, au nord de Besançon, sur un terrain abritant des caravanes. La piste du drame familial est privilégiée. Une enquête pour homicide est ouverte. On en vient à cette nouvelle agression raciste dénoncée en marge d'un match de Ligue 1 à Lyon contre le Havre. C'était samedi dernier. La première, c'était une élue de Rieux-la-Pape frappée et insulté avec son mari. Ils ont porté plainte. Et cette fois, Pierre Bazin, c'est un adolescent qui témoigne.
Oui, ce soir-là, Adam, 17 ans, explique qu'il se balade aux abords du stade avec ses amis lorsqu'ils sont pris en chasse par des hommes violents. Au micro de nos confrères de BFM Lyon, il explique avoir rapidement perdu connaissance.
Ils ont couru vers nous. Moi, j'ai eu un petit temps de réaction avant de réaliser qu'il y avait un danger. Donc du coup, j'ai mis du temps à courir. J'ai trébuché et ils ont commencé à m'attaquer à 4. Moi, j'étais au sol et mes amis sont retournés sur leurs traces. Parce qu'ils voyaient que je les suivais plus et ils m'ont ramassé au sol. J'ai la mâchoire qui est cassée. J'ai le côté droit du nez ici qui est cassé. Et j'ai 3 points de suture à l'arcade. Je suis un peu bouleversé. C'est inadmissible.
Les amis d'Adam précisent avoir entendu des insultes racistes. Le même soir, tout près du stade, une conseillère municipale de Rieux-la-Pape raconte avoir également subi une agression similaire avec son conjoint, rapportant elle aussi des propos racistes, des éléments qui font l'objet de vérifications par les enquêteurs.
Et notez que l'Olympique lyonnais a condamné ces actes dans un communiqué. Le retour de deux réalisateurs français attendus ce matin. Ils avaient été arrêtés fin juillet au Togo, puis emprisonnés pour ne pas s'être déclarés correctement, selon les autorités togolaises, ce qu'ils ont toujours nié. Et puis c'est peut-être un appel en visio qui entrera dans l'histoire comme celui qui aura permis à nos voitures de se conduire toutes seules. Entretien hier entre Elon Musk, le patron de Tesla, et le ministre des Transports. Dans la foulée, il y a eu cette annonce de Philippe Tabarot. Pour la première fois en France, deux voitures de la marque 100% autonomes vont être testées, équipées du dispositif Full Self Driving, c'est-à-dire une révolution, Alfred Orange.
Et celui qui en parle le mieux, c'est Pierre-Olivier Marie, rédacteur en chef du site Caradisiaque, qui a pu tester ce dispositif de conduite autonome.
C'est absolument terrifiant. Vous montez dans une voiture, vous indiquez une destination au GPS. La voiture conduit sans intervention humaine. Sauf que le conducteur doit en permanence lui aussi être aux aguets. Il y a une caméra dans la voiture qui s'assure que le conducteur est quand même attentif à tout ce qui se passe autour de lui et qu'il peut prendre la main à tout moment.
Des voitures déjà en test aux Pays-Bas, au Danemark et en Belgique avec, selon Tesla, d'excellents résultats puisque le constructeur assure qu'aucune collision n'a été recensée. Ces essais en France sont une avancée majeure dans la conquête du marché européen, d'après ce spécialiste.
Le modèle Y, c'est une des voitures les plus vendues en France. En plus, ils ont une usine en Allemagne. Ils ont un réseau de recharge partout. Enfin, c'est un énorme marché.
Avec aussi une opportunité à ne pas rater pour le constructeur américain, puisque le ministère des Transports fait savoir qu'une décision européenne doit être prise dans les prochaines semaines pour faire évoluer la législation sur ces véhicules autonomes.
Le reportage d'Alfred Orange pour RMC.
Et puis le quintet, c'est sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, 13h55.
Le pronostic de la Dream Team des courses RMC, son favori, c'est le numéro 3, Chanour. Son outsider, le 14, Egyptian Glory, le 3 et le 14.
C'était le journal de Victor Pochet, il est 7h37. Et s'il est 7h37, et si vous nous écoutez depuis 6h ou même 5h ce matin, vous le savez, les horaires décalés, eh bien, c'est compliqué. Pas toujours. Non, le travail, ça n'est pas toujours la santé, parce que travailler la nuit, travailler en horaire décalé, c'est mauvais pour la santé. C'est la conclusion de votre étude de l'ANSES. Henri Bastos, bonjour. On le pressentait, évidemment. Mais vous qui êtes directeur scientifique, vous mettez aussi des faits, des preuves et des chiffres derrière ces intuitions. Comment s'en sortir quand on n'a pas le choix que de travailler la nuit ou le week-end, quand on cumule parfois deux jobs? Je vous pose évidemment la question dans un instant. Arthur, vous n'êtes pas tellement surpris.
On n'est pas surpris, puisque de toute façon, le nombre de gens qui cumulent des jobs augmente. Et quand vous cumulez des jobs, en général, vous travaillez en horaire décalé. Et ça concerne surtout les jeunes.
Je vous attends au 32-16. Venez témoigner. Vous avez deux emplois, vous avez des horaires décalés. Je vous attends. À tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h42, vous êtes bien sur RMC, sur RMC Story. On le pressentait, mais vous le confirmez, travailler de nuit ou le week-end nuit à la santé et nuit aux relations sociales. Henri Bastos, bonjour. Vous êtes le directeur scientifique de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'ANSES. Travail de nuit, travail le soir, travail le week-end, ça use la santé, mais ça a aussi des conséquences pour les Français avec ces horaires atypiques, notamment sur les relations sociales et les relations sociales. On le sait, ça fait aussi partie de la santé. Vous allez nous le dire dans un instant, mais je voudrais d'abord donner la parole à Claude, parce que Claude en témoigne justement. Bonjour Claude.
Oui, bien le bonjour pour le 19.
Claude, comment allez-vous? Vous êtes retraité dans le Tarn, et si je vous dis comment allez-vous, c'est parce que précisément on va s'intéresser à la santé de ceux qui avaient des horaires décalés. Vous êtes à la retraite aujourd'hui, mais vous avez longtemps été un cheminot qui travaillait en horaire décalé, c'est ça?
Exactement, j'étais conducteur de train. Ouais. Et donc, en fin de compte, c'est, je dirais, 365 jours dans l'année et 24 heures sur 24 pour un cheminot. Et en fin de compte, les horaires décalés, c'était les repas pris à n'importe quelle heure, les découchers. Donc, découcher, ça veut dire dormir hors de la maison. Qu'est-ce que c'est qu'il y avait?
Vous avez travaillé à Noël, vous avez travaillé le jour de l'an,
les jours de fête. On est toujours un peu les vilains petits canards, parce que on ne peut pas aller à une soirée, parce que le lendemain, c'est 3 heures du matin debout. Le surlendemain, il y a encore une autre excuse, parce que les horaires, c'est plus 3 heures, on va recommencer à 14 heures. Enfin, je dirais que la vie d'un cheminot, c'est pas tout à fait le.
Ça a eu des conséquences. On va parler des compensations, mais d'abord, Claude, est-ce que ça a eu des conséquences pour vous, sur vos amitiés, sur votre couple, sur votre vie de famille?
Sur la vie de famille, c'est toujours pareil. C'est justement on peut pas aller là parce que je travaille. Le lendemain, c'est plus les mêmes horaires. Enfin, c'est tout le temps des inconvénients à chaque fois. C'est pareil au niveau rythme biologique. Mmh. C'est perturbant parce que un jour on mange, le lendemain on est sur le train, donc on peut pas manger.
Mais Emmanuel Le Chip le disait à l'instant, cela dit, à la SNCF, ces questions-là, elles ont été prises en compte. Vous avez eu des compensations malgré tout. Vous êtes parti à la retraite sans doute plus tôt que si vous aviez été dans une autre entreprise, non?
Moi, alors, je ne vais pas...
Vous étiez à la retraite à quel âge, Claude?
Je vais pas mentir, moi, à 50 ans, j'ai eu par rapport au dépôt dans lequel j'ai travaillé, même si ça avait été un autre dépôt, c'était pareil, j'ai été le dernier des Mohicans, quoi, à partir à 50 ans.
Parce vous êtes parti à 50 ans à la retraite?
À 50 ans, je suis parti à la retraite, sauf que c'était dans la période où Sarkozy était président de la République. Ouais. Et en fin de compte, il y a des mesures qui sont passées. Et en fin de compte, cheminot ne part plus à 50 ans réellement.
Claude, restez avec nous. Je voudrais précisément, Henri Bastos, que vous reveniez sur ce témoignage, mais plus globalement sur votre étude. En fait, la question, il y a les horaires, mais il y a la compensation. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup cumulent des emplois ou ont des horaires décalés, mais n'ont plus les compensations qu'il y avait à l'époque.
Alors là, justement, on rentre un petit peu dans le vif du sujet. Tout à l'heure, vous l'avez annoncé. Effectivement, on sait depuis longtemps que les horaires atypiques, ils peuvent amener un certain nombre de conséquences sur la santé, à la fois santé physique, mentale et sociale, et la vie sociale et professionnelle, et la vie sociale, pardon, et familiale. Donc oui, ça on le sait, mais nous, on apporte des éléments d'objectivation en fait de ces données. Donc on a épluché la littérature scientifique. D'abord, de quoi on parle? Après, on reviendra effectivement sur ce témoignage qui est assez clair, éclairant. De quoi on parle? Pour nous, les horaires atypiques, c'est une définition bien précise. C'est-à-dire, c'est si s'écarte globalement de la semaine un peu standard du 8 heures par jour sur une amplitude horaire entre 8 heures et 19 heures sur 5 jours par semaine du lundi au vendredi et puis deux jours consécutifs de repos. Les horaires atypiques, ce qu'on définit nous dans notre rapport, et en fait ils sont pas définis nulle part dans la réglementation, c'est pour nous, c'est les horaires longs. C'est plus de 8 heures par jour ou plus de 40 heures par semaine, ce sont les horaires décalés. Les horaires décalés, c'est quand vous commencez entre 5 heures et 8 heures, que ce soit du travail en fractionné ou pas, ou entre 19 heures et minuit. Et puis, ce sont le travail du week-end, c'est-à-dire le samedi ou le dimanche, ou alors les deux. Voilà, ça, ce sont les éléments qu'on a pris en compte dans notre rapport. Et effectivement, on montre qu'il y a, pour chaque horaire atypique, à des degrés divers, des effets sur la santé psychique, la santé mentale, la santé physique, et puis effectivement les considérations d'équilibre vie personnelle, vie
de l'anxiété, des problèmes de sommeil, de dépression, d'accident.
Emmanuel, c'est compliqué aussi quand vous êtes commerçant, artisan et que c'est Noël. Bah oui, vous bossez parce que les autres ont besoin de, voilà, vous le savez, il y a quand même aussi un choix délibéré.
Absolument, mais alors face justement à ces effets qu'on met en évidence encore une fois dans ce rapport, qu'on montre bien qu'il y a des atteintes à la santé prévisibles, eh bien nous, ce qu'on dit, c'est que globalement, ce qu'il faut, c'est limiter au maximum le travail en horaire atypique, là où il y en a besoin. Et donc l'idée, c'est aussi d'amener finalement les employeurs, la société dans son ensemble, à essayer de mesurer l'utilité sociale aussi des horaires atypiques réguliers.
Avec des compensations. Mais pour un certain... Arthur Chevalier.
Pardon de vous contredire, je comprends très bien les conséquences médicales dont vous parlez, mais enfin, ça va exactement au contraire de là où va la société, puisque le nombre de personnes qui cumulent deux jobs a doublé en 10 ans, selon l'INSEE. Ça concerne une majorité écrasante des gens qui ont moins de 35 ans. Donc évidemment, c'est ceux qui gagnent le moins d'argent. A priori, vu le taux de croissance en France et le niveau des salaires, c'est pas parti pour s'améliorer. Donc c'est très simple. Je pense que les gens qui cumulent deux travails, c'est pas parce que de toute façon ils n'ont pas le choix. C'est pour boucler des fins de mois. Et de toute façon, des gens choisiront toujours leur survie économique à leur santé. Ils ont des enfants, ils ont un loyer à payer. Donc je comprends très bien ce que vous dites et vous avez raison.
Mais maintenant la question, c'est qu'est-ce qu'on fait ?
Voilà,
c'est
ça.
Mais on discute, on met en avant justement ces effets sanitaires. Ils sont là aussi pour éclairer. Je veux dire, quel que soit finalement votre statut d'emploi, on le voit bien, que vous soyez fonctionnaire, que vous soyez artisan, commerçant, agriculteur, que vous soyez salarié du privé ou du public, vous pouvez être concerné par ces formes d'horaires atypiques. Donc ce qu'il faut, c'est effectivement discuter de ces effets et essayer de les prévenir au maximum et d'avoir...
Claude qui témoignait tout à l'heure, disait oui, mais effectivement, il est parti quand même à la retraite à 50 ans. Ces questions-là ont été prises en compte à une époque, donc la question de la retraite anticipée, ça fait partie de votre rapport. Hein. Retraite anticipée, suivi médical, reconversion possible, réduction du temps de travail. Il faut aménager le travail.
Il faut déjà reconnaître cette forme d'organisation du travail comme un risque professionnel à part entière, comme le travail de nuit. Et c'est effectivement des recommandations qu'on donne dans notre rapport, c'est-à-dire d'appliquer un certain nombre de dispositions protectrices pour essayer d'écarter un certain nombre de personnes des expositions qui peuvent être néfastes pour justement protéger leur santé. Et donc d'appliquer un certain nombre de dispositions qu'on applique déjà au travail de nuit à ce risque professionnel en horaire atypique.
Ils sont appliqués, vous le dites. Ces dispositions, elles sont appliquées. Elles le sont vraiment dans les faits.
Dans les faits, dans un certain nombre d'entreprises, il y a des accords d'entreprise qui permettent effectivement d'avoir un certain nombre de dispositions protectrices. Ce qu'on constate quand même, c'est que dans l'examen qu'on a fait d'un certain nombre d'accords d'entreprise, on a plutôt des compensations pécuniaires. Et donc, quand on a des compensations pécuniaires comme ça, qu'est-ce qui se passe ? Ben, vous protégez pas la santé. C'est-à-dire que
il faut aussi des compensations pour le coup en termes d'horaire, d'aménagement,
de compensation, de repos, effectivement.
Merci beaucoup, merci Henri Bastos d'avoir fait le point avec nous ce matin. Vous êtes le directeur scientifique de l'ANSES, qui est l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire. Et merci à Claude pour son témoignage. Il est 7h50 et dans un instant, c'est la proposition politique concrète. Droite, gauche, on alterne. Et ce matin, c'est la gauche avec Cécile Duflot. Bonjour Cécile.
Bonjour Apolline.
Dans une demi-heure, je recevrai le patron de la FNSEA, Arnaud Rousseau. Après l'été caniculaire, il alerte. Le pronostic vital de l'agriculture française est engagé. Voilà ce qu'il dit et qu'il développera tout à l'heure à 8h30. Cécile, vous voulez un prix d'achat minimum pour sauver les agriculteurs ?
Oui, et donc un revenu minimum pour les agriculteurs. Je pense que là maintenant, tout le monde a compris les enjeux auxquels doit faire face l'agriculture, mais il faut que les paysans puissent vivre, et donc il faut qu'ils aient tous un revenu minimum avec lequel ils puissent vivre.
Vous nous dites dans un instant, et vous nous écoutez, vous êtes peut-être agriculteur, n'hésitez pas à venir vous aussi témoigner et réagir. Le 32-16 vous est ouvert.
RMC, Apolline Matin.
Dans un instant, la proposition de gauche ce matin. Mais d'abord, le bonus, Mathieu, avec le retour de Mylène Farmer. Ce sera au cinéma.
Vous entendez le single qu'elle a sorti au mois de mai dernier, premier extrait du nouvel album Égrégore, qui doit paraître le 30 octobre prochain. On vient surtout d'apprendre que dès le 27, les fans pourront découvrir l'album au cinéma. Mylène Farmer organise une séance unique en salle avec l'album mis en image, un film musical d'un peu plus d'une heure, projeté dans une centaine de salles, notamment une version IMAX, format spectaculaire, écran géant, son immersif. On ne sait pas s'il s'agira d'une succession de clips, d'un véritable film, mais attention, il y a un tarif unique qui est prévu pour l'occasion, 22 euros quand même. Ça ne devrait pas effrayer les fans, ils devront être nombreux en salle. Le 13e Album studio de la chanteuse, c'est donc Égrégore, un mot qui définit un esprit collectif. Date de sortie le 30 octobre, 4 ans après son album précédent, L'Emprise. L'album Égrégore est déjà disponible en précommande.
C'est à qui le tour ? Refuser les jours, servir les jours croulent. Quel triste adage.
RMC, Apolline Matin.
Proposition de gauche, proposition de droite.
Et ce jeudi, c'est la proposition de gauche, c'est Cécile Duflo. Bonjour Cécile. Après un été ravageur, l'agriculture française a besoin d'aide. C'est d'ailleurs ce que plaidera à 8h30 le représentant des agriculteurs Arnaud Rousseau, qui tire le signal d'alarme. Vous avez une proposition pour sauver les agriculteurs, Cécile?
Oui, ça fait longtemps qu'on se pose la question du prix auquel on achète notre alimentation, de ce qui revient aux agriculteurs. Et on voit bien qu'on est toujours dans une situation dramatique. Il y a 20% des agriculteurs les moins payés en France qui touchent moins de 6400 euros par an. Moins de 6400 euros par an. Donc il faut absolument sortir de cette situation. Et pour ça, il faut faire en sorte que les agriculteurs puissent vivre de leur travail et de leur production. Ça, c'est la règle qui doit être la règle que nous devons mettre en œuvre. Et ça veut dire qu'il faut que les dispositions qui ont été mises en œuvre avec la loi Egalim, qui visait à aller dans cette dimension, dans cette démarche en disant qu'il faut arrêter d'avoir des prix trop bas, reviennent aux agriculteurs, qu'elles ne soient pas mangées par la négociation. Ben, aujourd'hui, le problème, c'est que on sait fixer un niveau de prix pas trop bas, mais on ne sait pas à qui revient finalement l'argent qui est dans ce niveau de prix. Donc le sujet, c'est moins de savoir, de faire payer davantage les produits agricoles, que de regarder à qui va cet argent. Et aujourd'hui, la chaîne de valeur...
La répartition de l'argent, du prix qu'on paye pour les tomates, les pommes de terre, les carottes, on n'est jamais très bien, très sûr de ce qui va au distributeur, ce qui va à l'industriel et
ce qui va aux intermédiaires et ce qui va à la grande distribution. Parce que aujourd'hui, le pouvoir de négociation de la grande distribution, qui s'est énormément concentré, est tel qu'ils font une pression énorme sur les producteurs. Donc il faut changer cette logique-là. On a eu dans le passé une autre politique agricole où on soutenait les prix, où on avait des prix garantis.
C'est un fiasco, on est d'accord.
Ça a abouti à de la surproduction. Oui, mais ça a fait que les agriculteurs vivaient mieux. Déjà, c'est une bonne chose.
C'est totalement absurde.
Alors attends, je veux terminer. C'est pas complètement absurde de se dire qu'aujourd'hui on a voulu favoriser l'agriculture d'exportation. Donc c'est vrai, la France exporte 18 milliards de produits agricoles, mais elle en importe aussi. En gros, 18 milliards. Et tout ça au prix d'une fragilisation des agriculteurs. Si on rajoute au-delà de ça l'enjeu énorme que va être celui de l'adaptation au changement climatique, parce que si l'agriculture française est en péril, si on est obligé de libérer les règles de l'AOC, du Comté, du Beaufort, c'est parce qu'il n'y a plus d'herbe à brouter dans les prairies et il n'y a pas de foin local, que la viticulture, elle aussi, est menacée. Il faut une sorte de grand pacte national autour de l'agriculture.
Qu'est-ce que vous faites de la mondialisation? Qu'est-ce que vous faites de la concurrence européenne? Qu'est-ce que vous faites des tomates marocaines? Si vous augmentez, malgré tout, quand même, ces revenus ici, est-ce qu'on va pas être bouffé par les autres?
Ça fait longtemps qu'un certain nombre de personnes disent que ces règles-là, c'est des règles qui fragilisent tout le monde. D'ailleurs, ça fragilise aussi les agriculteurs espagnols. Donc, il faut mettre fin à ce système où on a mis tout le monde en concurrence pour le pire, face à un enjeu, celui de l'adaptation de notre agriculture, qui est un enjeu pour lequel il faudra un soutien et une politique publique extrêmement volontariste.
Comme toutes les idées simples, en fait, la mise en œuvre, moi, je vois pas comment on fait. C'est-à-dire que, d'abord, vous dites prix minimum. Mais c'est quoi le prix minimum? Vous n'avez pas deux exploitations qui ont les mêmes coûts de revient. Donc, à partir de là, vous fixez comment votre prix minimum? C'est
par
régional,
filière.
C'est selon les régions,
par
etc.
Filière, Cécile?
Par filière. La loi Egalim le produit déjà. Ça a déjà été un premier pas.
Mais je n'invente rien. Vous alignez sur ce sont les coûts de production les plus élevés.
C'est pas une idée. Non, c'est pas une idée simple.
Totalement inefficace sur le plan économique.
C'est pas une idée simple, c'est une idée basique. Si on n'a pas des agriculteurs qui peuvent vivre de leur travail, on va avoir le scénario qu'on a, c'est-à-dire un effondrement de l'agriculture française.
Sauf qu'il y a des choses qui s'appellent être compétitif. Et la réalité, c'est que si vous et vos amis écolos n'aviez pas pourri la vie de nos agriculteurs, ils seraient aujourd'hui plus compétitifs que ce qu'ils sont aujourd'hui.
Alors, pardon de vous le dire,
mais
ce que je trouve extrêmement triste dans cette phrase, c'est que ce qui a été extrêmement dur pour l'agriculture française cet été, c'est les conditions climatiques. La sécheresse énorme, mais aussi son corollaire, c'est-à-dire des pluies diluviennes et des averses phénoménales de grêle. Alors, permettez-moi de vous dire que ça, c'est le changement climatique. On le sait, c'est documenté depuis 1990.
Non mais c'est pas le sujet.
Et donc, la solution n'est pas d'aller vers une agriculture encore plus intensive. On sait que les solutions, c'est des solutions qui passent par la nature, qui passent par l'évolution des productions et qui passent par une vraie politique publique.
Nationalisons l'agriculture.
En Allemagne de l'Est, Cécile. Enfin, vous pouvez pas tout diriger.
Pardon, mais c'est De Gaulle. Hein. C'est d'avoir un grand plan de développement de l'agriculture française, c'est l'après-guerre.
C'est pas parce que là, ce que vous proposez, c'est ce qu'on a fait en Allemagne de l'Est, ça a créé des pénuries.
Mais pas du tout. Enfin, et de dire, c'est la faute des écolos et faire autrement que mais c'est ce qu'a dit Emmanuel. Et le deuxième truc, c'est de dire, si vous faites ça, c'est l'Allemagne de l'Est. On est quand même au degré moins 12 de l'argumentaire face à des enjeux qui sont des enjeux vitaux.
Vous continuerez à défendre.
C'est une idée simple et c'est une bonne idée nécessaire pour les agriculteurs vivent.
Et je continuerai sur ces questions-là avec le président de la FNSEA, qui est mon invité à 8h30. Arnaud Rousseau, merci Cécile. Demain, ce sera. Demain c'est vendredi. Demain, ce sera le grand invité du vendredi. Mais chaque jour, vous le savez, on alterne les propositions de droite, les propositions de gauche du lundi au jeudi. Cécile Duflo et Charles Consigny. 7h58, à tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.